Le lendemain, dès la première heure, le branle-bas commença par l'arrivée des comédiennes et des comédiens. Une avalanche de toques, de chignons, de grandes bottes, de jupes courtes, de cris étudiés, de voiles flottant sur la fraîcheur du maquillage. Les femmes, en grande majorité, Cardaillac ayant pensé que pour un bai, le spectacle importait peu, qu'il s'agissait seulement de faire résonner des voix fausses dans de jolies bouches, de montrer de beaux bras, des jambes bien tournées dans le facile déshabillage de l'opérette. Toutes les célébrités plastiques de son théâtre étaient donc là, Amy Ferrat en tête, une gaillarde qui avait déjà essayé ses quenottes dans l'or de plusieurs couronnes, plus deux ou trois grimaciers fameux, dont les faces blafardes faisaient dans la verdure des quinconces les mêmes taches crayeuses et spectrales que le plâtre des statues. Tout ce monde-là, émoustillé par le voyage, la surprise du grand air, une hospitalité plantureuse, aussi l'espoir de pêcher quelque chose dans ce passage de baies, de nababs et autres porte-sequins, ne demandait qu'à s'ébaudir, rigoler et chanter, avec l'entrain canaille d'une flotte de canotiers de la Seine descendus des planches en terre ferme. Mais Cardaillac ne l'entendait pas ainsi. Sitôt débarqué, débarbouillé, le premier déjeuner pris, vite les brochures et répétons. On n'avait pas de temps à perdre. Les études se faisaient dans le petit salon près de la galerie d'été, où l'on commençait déjà à construire le théâtre. Et le bruit des marteaux, les ariettes des couplets de revue, les voix grêles soutenues par le crin-crin du chef d'orchestre, se mêlaient aux grands coups de trompette des pans sur leurs perchoirs, s'éparpillaient dans le mistral qui, ne reconnaissant pas la crécelle enragée de ses cigales, vous secouait tout cela avec mépris sur la pointe traînante de ses ailes. Assis au milieu du perron, comme à l'avant-scène de son théâtre, Cardaillac, en surveillant les répétitions, commandait à un peuple d'ouvriers, de jardiniers, faisait abattre les arbres qui gênaient le point de vue, dessinait la coupe des arcs triomphants, envoyait des dépêches, des estafettes au maire, au sous-préfet, à Arles, pour avoir une députation des filles du pays en costume national, à Barbantane, où sont les plus beaux farandoleurs, à Faramand, renommé pour ses manades de taureaux sauvages et de chevaux camarguais. Et comme le nom de Jean Soulet flamboyait au bas de toutes les missives, que celui du bai de Tunis s'y ajoutait, de partout on acquiesçait avec empressement, les fils télégraphiques n'arrêtaient pas, les messagers crevaient des chevaux sur les routes, et cette espèce du petit sardanapale de Porte-Saint-Martin qu'on appelait Cardaillac répétait toujours « il y a de quoi faire ». Heureux de jeter l'or à la volée comme des poignées de semailles, d'avoir à brasser une mise en scène de 50 lieues, toute cette Provence dont ce Parisien forcené était originaire et connaissait à fond les ressources en pittoresque. Dépossédée de ses fonctions, la vieille maman ne se montrait plus guère, s'occupait seulement de la ferme et de son malade, effarée par cette foule de visiteurs, ces domestiques insolents qu'on ne distinguait pas de leur maître, ces femmes à l'air effronté et coquet, ces vieux rasés qui ressemblent à de mauvais prêtres, tous ces fous se poursuivant la nuit dans les couloirs à coups d'oreillers, d'éponges mouillées, de glands de rideaux, qu'ils arrachaient pour en faire des projectiles. Le soir, elle n'avait plus son fils. Il était obligé de rester avec ses invités, dont le nombre augmentait à mesure qu'approchaient les fêtes. Pas même la ressource de causer de ses petits-enfants avec M. Paul, que Jean Soulet, toujours bonhomme, un peu gêné par le sérieux de son ami, avait envoyé passer ces quelques jours près de ses frères. Et la soigneuse ménagère, à qui l'on venait à chaque instant arracher ses clés pour du linge, pour une chambre, de l'argenterie de renfort à donner, pensant à ses belles piles de surtout ouvrées, au saccagement de ses dressoirs, de ses crédences, se rappelant l'état où le passage de l'ancien bai avait laissé le château, dévasté comme par un cyclone, disait dans son patois en mouillant fiévreusement le lin de sa quenouille « Que le feu de Dieu les brûle, les baies, et puis les baies !» Enfin, il arriva le jour, ce jour fameux dont on parle encore aujourd'hui dans tout le pays de là-bas. Oh, vers 3 heures de l'après-midi, après un déjeuner somptueux présidé cette fois par la vieille mère avec une cambrésine neuve à sa coiffe, et où s'étaient assis, à côté de célébrités parisiennes, des préfets, des députés, tous en tenue, l'épée au flanc, des maires en écharpe, de bons curés rasés de frais, lorsque Jean Soulet, en habit noir et cravate blanche, entouré de ses convives, sortit sur le perron et qu'il vit dans ce cadre splendide de nature pompeuse, au milieu des drapeaux, des arcs, des trophées, ce fourmillement de têtes, ce flamboiement de costumes s'étageant sur les pentes, au tournant des allées. Ici, groupées en corbeille sur une pelouse, les plus jolies filles d'Arles, dont les petites têtes mates sortaient délicatement des fichus de dentelle. Au-dessous, la farandole de Barbantane, ses 8 tambourins en queue, prête à partir, les mains enlacées, rubans au vent, chapeau sur l'oreille, la rayole rouge autour des reins. Plus bas, dans la succession des terrasses, les orphéons alignés tout noirs sous leurs casquettes éclatantes, le porte-bannière en avant, grave, convaincu, les dents serrées, tenant haut sa hampe ouvragée. Plus bas encore, sur un vaste rond-point transformé en cirque de combat, des taureaux noirs entravés et les gauchos camarguais sur leurs petits chevaux à longue crinière blanche, les ouzos par-dessus les genoux, au poing le trident levé. Après, encore des drapeaux, des casques, des baïonnettes, comme cela jusqu'à l'arc triomphal de l'entrée. Puis, à perte de vue de l'autre côté du Rhône, sur lequel deux compagnies du train venaient de jeter un pont de bateau pour arriver de la gare en droite ligne à Saint-Romand, une foule immense, des villages entiers dévalant par toutes les côtes, s'entassant sur la route de Giffas dans une montée de cris et de poussière, assis au bord des fossés, grimpés sur les ormes, empilés sur les charrettes, formidable haie vivante du cortège. Par là-dessus, un large soleil blanc, épandu, dont un vent capricieux envoyait les flèches dans toutes les directions, au cuivre d'un tambourin, à la pointe d'un trident, à la frange d'une bannière, et le grand Rhône fougueux et libre, emportant à la mer le tableau mouvant de cette fête royale. En face de ces merveilles, où tout l'or de ces coffres resplendissait, le nabab eut un mouvement d'admiration et d'orgueil. « C'est beau !» dit-il en pâlissant. Et derrière lui sa mère, pâle elle aussi, mais d'une indicible épouvante, murmura « C'est trop beau pour un homme, on dirait que c'est Dieu qui vient !» Le sentiment de la vieille paysanne catholique était bien celui qu'éprouvait vaguement tout ce peuple amassé sur les routes, comme pour le passage d'une fête Dieu gigantesque, et à qui ce prince d'Orient venant voir un enfant du pays rappelait des légendes de rois mages, l'arrivée de Gaspard le Mort apportant au fils du charpentier la myrrhe et la couronne en tiare. Au milieu des félicitations émues dont Jean Soulet était entouré, Cardaillac, triomphant et suant, qu'on n'avait pas vu depuis le matin, apparut tout à coup. Quand je vous disais qu'il y avait de quoi faire, hein? Est-ce chic? En voilà une figuration. Je crois que nos Parisiens paieraient cher pour assister à une première comme celle-là. Et baissant la voix à cause de la mère qui était tout près. Vous avez vu nos Arlésiennes? Non, regardez-les mieux. La première, celle qui est en avant pour offrir le bouquet. Mais, c'est ami Ferrat. Parbleu, vous sentez bien, mon cher, que si le bai jette son mouchoir dans ce tas de belles filles, il faut qu'il y en ait une au moins pour le ramasser. Elles n'y comprendraient rien, ces innocentes. Oh! J'ai pensé à tout, vous verrez. C'est monté, réglé, comme à la Seine. Côté ferme, côté jardin. Ici, pour donner une idée de son organisation parfaite, le directeur leva sa canne. Aussitôt, son geste répété courut du haut en bas du parc, faisant éclater à la fois tous les orphéons, toutes les fanfares, tous les tambourins, unis dans le rythme majestueux du chant populaire méridional, grand soleil de la Provence. Les voix, les cuivres montaient dans la lumière, gonflant les oriflammes, agitant la farandole qui commençait à onduler, à battre ses premiers entrechats sur place, tandis qu'à l'autre bord du fleuve, une rumeur courait comme une brise, sans doute la crainte que le bai fût arrivé subitement d'un autre côté. Nouveau geste du directeur, et l'immense orchestre s'apaisa, plus lentement cette fois, avec des retards, des fusées de notes égarées dans le feuillage, mais on ne pouvait exiger davantage d'une figuration de 3000 personnes. À ce moment, les voitures s'avançaient, les carrosses de gala qui avaient servi aux fêtes de l'ancien bai, deux grands chars rose et or à la mode de Tunis, que la mère Jean Soulet avait soignés comme des reliques, et qui partaient de la remise avec leurs panneaux peints, leurs tentures et leurs crépines d'or, aussi brillants, aussi neufs qu'au premier jour. Là encore, l'ingéniosité de Cardaillac s'était exercée librement, attelant aux guides blanches au lieu des chevaux, un peu lourds pour ses fragilités d'aspect et de peinture, 8 mules coiffées de nœuds, de pompons, de sonnailles d'argent et caparaçonnées de la tête aux pieds de ces merveilleuses sparteries dont la Provence semble avoir emprunté aux morts et perfectionné l'art délicat. Si le bai n'était pas content, alors... Le nabab, Montpavon, le préfet, un des généraux, montèrent pour l'aller dans le premier carrosse. Les autres prirent place dans le second, dans des voitures à la suite. Les curés, les maires, tout enflammés de la bombance, coururent se mettre à la tête des orphéons de leur paroisse qui devaient aller au devant du cortège, et tout s'ébranla sur la route de Giffas. Il faisait un temps superbe, mais chaud et lourd, en avance de 3 mois sur la saison, comme il arrive souvent en ce pays impétueux où tout se hâte, où tout arrive avant l'heure. Quoiqu'il n'y eût pas un orage visible, l'immobilité de l'atmosphère, où le vent venait de tomber subitement comme une voile qu'on abat, l'espace ébloui, chauffé à blanc, une solennité silencieuse, planant sur la nature, tout annonçait un orage en train de se former dans quelques coins de l'horizon. L'immense torpeur des choses gagnait peu à peu les êtres. On n'entendait que les sonnailles des mulets allant d'un amble assez lent, la marche rythmée et lourde sur la poussière craquante des bandes de chanteurs que Cardaillac disposait de distance en distance, et de temps à autre, dans la double haie grouillante qui bordait le chemin au loin déroulé, un appel, des voix d'enfants, le cri d'un revendeur d'eau fraîche, accompagnement obligé de toutes les fêtes du midi en plein air. « Ouvrez donc votre côté, général, on étouffe !» disait mon pavon, cramoisi, craignant pour sa peinture. Et les glaces abaissées laissaient voir aux bons populaires ces hauts fonctionnaires épongeant leurs faces augustes, congestionnées, angoissées par une même expression d'attente, attente du baie, de l'orage, attente de quelque chose, enfin. Encore un arc de triomphe. C'était Giffas, et sa longue rue caillouteuse jonchée de palmes vertes, ses vieilles maisons sordides tapissées de fleurs et de tentures. En dehors du village, la gare, blanche et carrée, posée comme un dé au bord de la voie, vrai type de la petite gare de campagne perdue en pleine vigne, n'ayant jamais personne dans son unique salle, quelquefois une vieille à paquet attendant dans un coin, venue 3 heures d'avance. En l'honneur du baie, la légère bâtisse avait été chamarrée de drapeaux, de trophées, ornée de tapis, de divans, et d'un splendide buffet dressé avec un encas et des sorbets tout prêts pour l'altesse. Une fois là, le nabab descendu de carrosse sentit se dissiper cette espèce de malaise inquiet que lui aussi, sans qu'il sût pourquoi, éprouvait depuis un moment. Préfets, généraux, députés, habits noirs et fracs brodés, se tenaient sur le large trottoir intérieur, formant des groupes imposants, solennels, avec ses bouches en rond, ses balancées sur place, ses haut-le-corps prud'homesques d'un fonctionnaire public qui se sent regardé. Et vous pensez si l'on s'écrasait le nez dehors, contre les vitres, pour voir toutes ces broderies hiérarchiques, le plastron de Montpavon qui s'élargissait, montait comme un soufflet d'œufs à la neige. Cardaillac, haletant, donnant ses derniers ordres, et la bonne face de Jean Soulet, de leur Jean Soulet, dont les yeux étincelants entre les joues bouffies et tannées, semblaient 2 gros clous d'or dans la gaufrure d'un cuir de cordoue. Tout à coup, des sonneries électriques. Le chef de gare tout flambant a couru sur la voie. « Messieurs, le train est signalé, dans 8 minutes, il sera ici. » Tout le monde tressaillit. Puis un même mouvement instinctif fit tirer du gousset toutes les montres. Plus que 6 minutes. Alors, dans le grand silence, quelqu'un dit « Regardez donc par là !» Sur la droite, du côté par où le train allait venir, 2 grands coteaux chargés de vignes formaient un entonnoir dans lequel la voie s'enfonçait, disparaissait comme engloutie. En ce moment, tout ce fond était noir d'encre, obscurci par un énorme nuage, barre sombre, coupant le bleu du ciel à pic, dressant des escarpements, des hauteurs de falaises en basalte sur lesquelles la lumière déferlait toute blanche, avec des pâlissements de lune. Dans la solennité de la voie déserte, sur cette ligne de rails silencieuse où l'on sentait que tout, à perte de vue, se rangeait pour le passage de l'altesse, c'était effrayant cette falaise aérienne qui s'avançait, projetant son ombre devant elle avec ce jeu de la perspective que donnait au nuage une marche lente, majestueuse, et à son ombre la rapidité d'un cheval au galop. Quel orage tout à l'heure ! Ce fut la pensée qui leur vint à tous, mais ils n'eurent pas le temps de l'exprimer, car un sifflet strident retentit, et le train apparut au fond du sombre entonnoir. Vrai train royal, rapide et court, chargé de drapeaux français et tunisiens, et dont la locomotive, mugissante et fumante, un énorme bouquet de roses sur le poitrail, semblait la demoiselle d'honneur d'une noce de Léviathan. Lancée à toute volée, elle ralentissait sa marche en approchant. Les fonctionnaires se groupèrent, se redressant, assurant les épées, ajustant les faux cols, tandis que Jean Soulet allait au-devant du train le long de la voie, le sourire obséquieux aux lèvres et le dos arrondi déjà pour le salam alec. Le convoi continuait très lentement. Jean Soulet crut qu'il s'arrêtait et mit la main sur la portière du wagon royal, étincelant d'or sous le noir du ciel. Mais l'élan était trop fort, sans doute. Le train avançait toujours, le nabab marchant à côté, essayant d'ouvrir cette maudite portière qui tenait ferme, et de l'autre faisait un signe de commandement à la machine. La machine n'obéissait pas. « Arrêtez donc !» Elle n'arrêtait pas. Impatienté, il sauta sur le marchepied garni de velours, et, avec sa fougue un peu impudente qui plaisait tant à l'ancien baie, il cria, sa grosse tête crépue à la portière, « Station de Saint-Romand, Altesse !» Vous savez, cette sorte de lumière vague qu'il y a dans le rêve, cette atmosphère décolorée et vide où tout prend un aspect de fantôme, Jean Soulet en fut brusquement enveloppé, saisi, paralysé. Il voulut parler, les mots ne venaient pas. Ses mains molles tenaient leur point d'appui si faiblement qu'il manqua tomber à la renverse. Qu'avait-il donc vu? À demi couché sur un divan qui tenait le fond du salon, reposant sur le coude sa belle tête au ton mat, à la longue barbe soyeuse et noire, le bai, boutonné haut dans sa redingote orientale, sans autres ornements que le large cordon de la Légion d'honneur en travers sur sa poitrine et l'aigrette en diamant de son bonnet, s'éventait, impassible, avec un petit drapeau de Sparterie brodé d'or. Deux aides de camp se tenaient debout près de lui, ainsi qu'un ingénieur de la compagnie. En face, sur un autre divan, dans une attitude respectueuse, mais favorisée puisqu'ils étaient les seuls assis devant le bai, jaunes tous deux, leur grand favori tombant sur la cravate blanche, deux hiboux, l'un gras et l'autre maigre. C'était Emmerling, père et fils, ayant reconquis l'altesse et l'emmenant en triomphe à Paris. Oh, l'horrible rêve! Tous ces gens-là, qui connaissaient bien Jean Soulet pourtant, le regardaient froidement, comme si son visage ne leur rappelait rien. Blême à faire pitié, la sueur au front, il bégaya. « Mais, Altesse, vous ne descendez... » Un éclair livide en coup de sabre, suivi d'un éclat de tonnerre épouvantable, lui coupa la parole. Mais l'éclair qui brilla dans les yeux du souverain lui parut autrement terrible. Dressé, le bras tendu, d'une voix un peu gutturale habituée à rouler les dures syllabes arabes, mais dans un français très pur, le bel foudroya de ses paroles lentes et préparées. « Rentre chez toi, Mercanti. Le pied va où le cœur le mène. Le mien n'ira jamais chez l'homme qui a volé mon pays. » Jean Soulet voulut dire un mot. Le bai fit un signe. « Allez !» Et l'ingénieur, ayant poussé un timbre électrique auquel un coup de sifflet répondit, le train, qui n'avait cessé de se mouvoir très lentement, tendit et fit craquer ses muscles de fer et prit l'élan à toute vapeur, agitant ses drapeaux au vent d'orage dans des tourbillons de fumée noire et d'éclairs sinistres. Lui, debout sur la voie, chancelant, ivre, perdu, regardait fuir et disparaître sa fortune, insensible aux larges gouttes de pluie qui commençaient à tomber sur sa tête nue. Puis, quand les autres s'élançant vers lui l'entourèrent, le pressèrent de questions, « Le bai ne s'arrête donc pas ?» Il balbutia quelques paroles sans suite. « Intrigue de cour, machination infâme !» Et tout à coup, montrant le poing au train disparu, du sang plein les yeux, une écume de colère aux lèvres, il cria dans un rugissement de bête fauve, « Canaille !» De la tenue, Jean Soulet, de la tenue. Vous devinez qui avait dit cela, et qui, son bras passé sous celui du nabab, tâchait de le redresser, de lui cambrer la poitrine à l'égal de la sienne, le conduisait au carrosse au milieu de la stupeur des habits brodés, et l'y faisait monter, anéanti, stupéfié, comme un parent de défunt qu'on hisse dans une voiture de deuil après la lugubre cérémonie. La pluie commençait à tomber, les coups de tonnerre se succédaient. On s'entassa dans les voitures, qui reprirent vite le chemin du retour. Alors il se passa une chose, navrante et comique, une de ces farces cruelles, du lâche destin accablant ses victimes à terre.